Bonjour, et voilà, on se retrouve pour cette nouvelle émission des Carnets de Comaguerre, en compagnie d'Aïcha dans la cabine technique, que je remercie pour sa présence vacancière. Mais non, c'est elle qui maintient la radio sur ses épaules, ou sur ses oreilles, sur ses oreilles. Merci Aïcha.
Et merci puis, Aïcha.
Merci, merci.
Et puis Habib qui est là avec moi. Merci Habib d'être avec nous. On n'a pas Roselyne aujourd'hui.
Non.
Bien, l'actualité ne s'arrête évidemment pas, même si un été, je trouve, l'actualité est permanente et d'importance. Je vais commencer par revenir sur la partie de l'émission qui avait été la plus chaude la semaine dernière, c'est-à-dire faire le point sur la catastrophe cubaine.
Oui.
C'était donc mardi dernier, la catastrophe, je le rappelle, donc un incendie provoqué par la foudre dans un stock de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés dans une zone industrielle portuaire, donc une zone qui est en arrière d'un port, qui est lui-même le principal, voire l'unique port pétrolier de la République cubaine, qui s'appelle Matanzas. Et donc au moment où je vous parlais, donc mardi dernier, le feu qui avait pris dans un premier bac foudroyé s'était propagé du fait de la proximité de l'énorme chaleur sur le second et du vent, et puis sur un troisième, et il risquait de s'étendre encore à un quatrième, c'est-à-dire qu'il y a une partie du stock de carburant et de pétrole de la République cubaine qui est partie en fumée. Et quelle fumée ! Une fumée d'un noir épais comme toutes les fumées, comme tous les feux de pétrole. Bon, ça c'était mardi dernier. Et puis, entre-temps, donc les jours suivants, j'ai eu l'occasion donc de rentrer en contact avec monsieur l'ambassadeur de la République de Cuba en France, avec lequel j'ai fait, à la façon dont on peut le faire en improvisant un moment d'été sans gros moyens techniques, mais avec mon téléphone portable et le sien, un entretien avec monsieur l'ambassadeur de Cuba à Paris. Donc il s'appelle monsieur Otto Valiant Frias, qui est un ambassadeur récemment nommé par la République cubaine, et qui a d'ailleurs présenté ses lettres de créance à M. Emmanuel Macron il n'y a pas longtemps, mais c'était au mois de juillet. Qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas les usages diplomatiques, que les lettres de créance ? C'est des lettres qu'un pays donne à l'ambassadeur qu'il a choisi pour le représenter dans un autre pays, et dit voilà, j'accrédite monsieur, lettre de créance, pour exercer la fonction d'ambassadeur à tel endroit, donc là à Paris. Et cette lettre de créance doit être, c'est les usages diplomatiques, remise au chef d'État dans lequel cet ambassadeur est envoyé. Alors, M. Frias, Valiant Frias, était là depuis quelques mois, et l'occasion n'avait pas encore été fournie d'aller les remettre à M. Macron. Donc, il est allé à l'Élysée, on l'a vu en photo avec M. Emmanuel Macron, remettre ses lettres de créance. Donc, il est donc tout à fait bien installé dans son poste. Et si j'ai convenu, on a mis facilement au point cet accord, c'est que j'avais eu l'occasion de rencontrer cet ambassadeur à Marseille au cours d'une visite officielle qu'il avait faite à Marseille même, et au cours de laquelle il avait rencontré toute une série d'institutions locales pour nouer des liens de coopération à la balle, ce qu'on appelle dans le langage des diplomates la coopération décentralisée. Alors, dans la coopération, il y a des accords entre États, il y a des accords entre institutions internationales et États, et puis il y a des coopérations décentralisées, c'est-à-dire une mairie d'une ville qui en aide d'une autre ville, ou une région d'un pays qui en aide d'une autre. Il y a eu des cas, par exemple, de coopération décentralisée pour les réseaux d'eau potable et tout, entre la région Provence-Côte d'Azur, qui a de l'eau, vous le savez, normalement, la Durance, le Verdon et tout, et donc il y a eu des accords avec des pays du Maghreb des accords de coopération décentralisée. Donc des savoirs techniques passent d'un endroit à l'autre sans que ça passe nécessairement par le canal des États. Et c'était ça donc l'objectif de la visite de M. Valiant Frias à Marseille. C'était donc au mois de mai, si ma mémoire ne me trompe pas.
Ah, c'est ça.
Et donc, à la suite de ça, on a passé ensemble un quart d'heure au téléphone. Enfin, il a expliqué où on en est la situation. Et donc ça, c'était jeudi l'interview. Elle a été rediffusée hier, 15 août, sur Radio Galère, et je pense qu'on peut la trouver sur le site de la radio pour des rediffusions. Et au cours de cette interview, donc, qui remonte à jeudi dernier, monsieur l'ambassadeur confirmait que le feu était maîtrisé. Et il précisait, ce qui est tout à fait important, c'était que c'était un feu d'une ampleur exceptionnelle, un accident d'une ampleur exceptionnelle, et que sans l'aide immédiate et massive des deux gouvernements voisins les plus proches, à la fois politiquement et géographiquement, à savoir le Mexique et le Venezuela, qui d'abord savent, parce que tous les deux ont une industrie pétrolière très importante, ils ont le matériel pour éteindre les feux, genre les mousses carboniques, tout un tel comme ça, ils ont les hélicoptères ad hoc, ils ont les bateaux, les super bateaux pompes de marins-pompiers, le bateau mexicain est venu directement du Mexique pour arroser les bacs en feu. Donc ça, on ne sait pas, enfin je ne sais pas que ce qu'il a dit, mais monsieur l'ambassadeur a reconnu que ça dépassait les moyens en place à Cuba, tellement c'était énorme. Et donc c'est grâce à cette solidarité latina, comme on dirait, des deux voisins amis et pétroliers que le sinistre a été maîtrisé, donc c'était mercredi. Un sinistre maîtrisé, ça veut simplement dire que le feu ne s'étend pas, mais qu'il ensuite a tout maîtrisé pour voir s'il ne reste pas ici un petit foyer là, pas une conduite qui a fui, pas un risque que ça reprenne à un autre endroit. Tout ça prend du temps, surtout quand pendant 4 jours, vous avez déversé des tonnes d'eau, des tonnes de mousse, des tonnes d'eau de mer sur un paysage qui est dévasté. Il faut bien, parce que les bâtiments, ils sont passés, enfin les bâtiments administratifs et tout, tout ce qui était dans la zone a brûlé. Bon. Donc il s'agit bien d'une catastrophe nationale, et il s'agit d'une catastrophe engendrée par la foudre. Alors vous êtes étonné parce que, évidemment, les ingénieurs qui connaissent les métiers du pétrole disent il y a effectivement des paratonnerres sur tous les bacs de stockage de pétrole du monde, il y a des paratonnerres. Mais il se trouve que là, on a affaire à une foudre, enfin une telle décharge électrique que les paratonnerres ont sauté. Ils n'ont pas fait leur office. Bon. Ça aussi, c'est une donnée. Alors, c'est une donnée, d'ailleurs, qui est préoccupante pour la population et pour l'administration cubaine, puisqu'il se trouve, et j'ai regardé des chiffres depuis, qu'il y a tous les ans, sur le sol de l'île, 50 à 60 morts de décès par la foudre. C'est-à-dire que c'est une île qui est particulièrement exposée. Et j'ai vu des photos de la décharge qui a mis le feu. C'est un paysage extraordinaire de violence et de force. On se demande le nombre de centrales électriques qu'il faudrait pour produire une puissance électrique de la sorte. Bon. Cette phase-là est terminée, donc là, l'incendie n'est pas allé plus loin. Maintenant, on rentre dans la phase du bilan, à s'assurer que tout reprend corps, et puis surtout, reconstruire. Car ce qu'a perdu Cuba dans cet accident, c'est 40% de ses stocks de pétrole. C'est-à-dire presque la moitié du stock de l'année. Bon. Alors d'une part, il faut reconstruire des bacs. Alors tout est compliqué, et ça, l'ambassadeur l'a bien expliqué, tout est compliqué parce qu'à cause de l'embargo, Cuba ne peut pas acheter toute une série de matériels pétroliers qui sont sur le marché mondial sans que ses fournisseurs ne subissent l'embargo eux-mêmes. Vous savez, si jamais par exemple, Cuba décidait d'acheter un bac de stockage qui serait fabriqué par une entreprise française, cette entreprise française verrait ses avoirs aux États-Unis gelés, elle se verrait interdit de l'accès au marché américain, etc. Bon, donc tout est très compliqué. Ce qui serait une opération normale de rétablissement de la situation, on rachète du matériel, on le met en place. Deuxième complication, Cuba est un pays pauvre, c'est-à-dire que tout ça va beaucoup coûter. Je ne sais pas quelles sont les polices d'assurance qui s'appliquent dans ce genre de sinistre, il y en a certainement. Mais enfin maintenant, Cuba en est à la période du bilan. Outre le bilan humain, puisqu'il y a eu des disparus, 2 dizaines en gros de disparus, on a déjà assisté à des funérailles de jeunes pompiers de 18 ans qui est mort au feu. Donc le personnel cubain a fait preuve d'un courage et d'une volonté extraordinaire en restant des heures et des heures, des jours sans dormir pour essayer de maîtriser l'incendie. Mais aujourd'hui, cette phase-là est tournée et il s'agit de reconstruire cette partie de l'économie cubaine. Donc c'est énormément d'argent, énormément d'investissement et énormément de difficultés pour se procurer le moindre matériel, la moindre vanne, le moindre compteur, etc. Tout ça dit, à qui on va le demander? Est-ce qu'on ne va pas avoir des sanctions? Est-ce que le fournisseur va accepter de vendre ou de ne pas vendre, etc. C'est ça la vie quotidienne d'une administration cubaine. C'est-à-dire, est-ce que j'achète, à qui? Mais il va refuser. Est-ce qu'il y a boycott? Est-ce qu'il n'y a pas boycott, etc. Bon, tout ça est beaucoup plus compliqué que dans un pays qui ne serait pas victime d'un embargo comme celui-ci l'est. Mais, enfin, disons que cette phase-là est en cours d'établissement. Et je voulais juste rappeler ce que j'ai dit au cours de l'émission avec monsieur l'ambassadeur, que pour ceux d'entre vous qui voudraient aider, alors il y a ici et là dans différents endroits de France des associations France-Cuba, des amitiés France-Cubaines, etc. Mais je recommande de passer par le canal qui a été mis en place très très vite par une des grosses associations de solidarité avec Cuba, qui s'appelle CubaCoop, alors CubaCoop.org. c'est 2op.org. Vous allez sur le site de cette association et ils ont mis en place un système où vous pouvez verser 10 euros, 15 euros, etc. Je précise, enfin ça, c'est les aspects mineurs de l'embargo, mais que vous savez, quand vous faites une donation à une association en France, vous avez droit à une diminution d'impôt pour le versement que vous avez fait. Ben pour un don à Cuba, il n'y a pas de diminution d'impôts. C'est les petits aspects de l'embargo, les petites méchancetés qu'on fait à un pays qu'on n'aime pas.
Pour la Syrie aussi. Hein.
Voilà, et pour la Syrie aussi, moi, pareil. Voilà. Bon, ben voilà, ça, c'est les pays qu'on n'aime pas. Donc, pour
vous allez plus de 3 000 euros de dons pour la Syrie, n'ont pas été comptabilisés.
Ils n'ont pas été comptabilisés, voilà.
Ouais, c'est exact.
C'est exact. Alors, vous allez verser, je ne sais pas où, pas des Suisses et des Belges, ils ont des moyens, mais à un autre pays, ou un pays africain où il n'y a pas d'embargo, là, vous aurez droit à un rabais sur vos impôts.
Côte d'Ivoire.
Voilà. Mais si c'est pour la Syrie ou pour Cuba, vous payez plein pot. Voilà. Merci la générosité du gouvernement français par rapport à la catastrophe. Voilà, on en reparlera sans doute, mais je voulais faire le point là-dessus. Car c'est un événement de grande importance pour la vie cubaine et c'est en même temps un élément qui a ranimé la solidarité nationale en disant face à ce coup du destin, puisque là c'est pas un attentat, c'est pas une mauvaise manière, l'embargo va compliquer énormément la remise en état de l'économie pétrolière cubaine, mais c'est tout. Le reste, c'est la capacité des cadres cubains, la capacité de la population à faire face à ce nouveau coup du sort qui est très très important. Voilà. Bien, ceci étant rappelé, on va parler, bien entendu, on va revenir en Ukraine, parce que je n'ai pas eu trop le temps d'en parler la semaine dernière, pour montrer les difficultés de l'équipe au pouvoir à Kiev. Je dis équipe au pouvoir parce que bon, on nous montre qu'un seul personnage dans son tenue, dans son battle dress improvisé, ben, il est probablement pas tout seul. Il a au moins, j'allais dire méchamment, il a au moins un caméraman et un ingénieur du son. Mais je pense qu'il y a quand même un petit peu plus autour. Il y a différentes prises de position, il y a quelques ministres, il y a des porte-parole et tout. Il y a apparemment des gens qui continuent à s'occuper un peu de l'armée ukrainienne ou de ce qu'il en reste. Mais il est manifestement menacé.
Ceux qui s'occupent de l'armée ukrainienne, c'est les Américains, l'OTAN.
Voilà, alors en fait, c'est ça au niveau de l'armée. Alors il y a sans doute des hauts gradés ukrainiens, mais il y a beaucoup de conseillers officiels, et puis probablement des conseillers officieux, c'est-à-dire que sur le terrain, on doit entendre effectivement des accents inhabituels qui ne sont pas les accents ukrainiens classiques. Bon. Alors, en quoi le personnage est diminué et instable, c'est qu'il y a eu deux types d'attaques, mais il y en a même trois, disons. D'une part, l'Amnesty International, donc la très très grande organisation humanitaire que tout le monde connaît, s'est mis à produire un rapport qui a fait grincer des dents à la fois à Washington et à Kiev. Pourquoi ? Parce que ce rapport, alors pour nous il est absolument sans surprise puisqu'il ne fait que confirmer ce que tous les observateurs honnêtes ont observé depuis le début du conflit militaire, c'est que l'armée ukrainienne est dans l'incapacité absolue d'avancer sur le terrain, elle ne peut que s'installer dans des espèces de fortins pour défendre des lignes qui ne bougeront pas, et ces fortins, alors il y en a quelques-uns qui sont des vrais fortins enterrés avec du béton, mais il y en a de plus en plus, et c'est ce que dit le rapport d'Amnesty International, qui ne fait, je vous dis, que confirmer ce que tous les observateurs avaient déjà vu, c'est-à-dire que l'armée ukrainienne installe ses défenses dans les zones civiles, c'est-à-dire dans une école, dans un hôpital, dans des endroits comme ça. Ce qui permet à la propagande occidentale, pas qu'ukrainienne, de dire si jamais l'armée russe se mêle de déloger cette unité militaire de l'endroit où elle est, de dire la Russie a attaqué une école, la Russie a attaqué un hôpital. Bon, alors ça, c'est écrit noir sur blanc dans Amnesty, et donc ça a beaucoup fait grincer à Kiev, mais c'est la vérité, et on peut se féliciter qu'une organisation qui a quand même une réputation à maintenir, qui s'appelle Amnesty International, ait fini par dire, au bout de 5 mois, ben voilà ce que nous constatons sur le terrain, c'est-à-dire que cette tactique de l'armée ukrainienne est dévastatrice, beaucoup plus pour les civils ukrainiens que pour l'armée ukrainienne elle-même. Bon, ça c'est important. Alors, la seule conséquence anecdotique qui a eu lieu, c'est que la représentante ukrainienne d'Amnesty International a démissionné. Alors là, je ne sais pas quel commentaire elle a fait. Ça veut dire, ben, j'ai servi à rien parce que pendant 3 mois, j'ai essayé d'éviter que Amnesty dise la vérité. Ils ont fini par la dire quand même. Donc, je ne sers plus à rien. Et elle est allée, je ne sais pas quoi faire, peut-être faire un autre métier, ou elle a quitté le pays, comme hélas beaucoup d'Ukrainiens le font depuis Londres. Ça, c'est la première donnée. d'affaiblissement de Zelensky. La deuxième donnée, c'est un article qui est paru dans un grand journal allemand qui s'appelle Die Welt. C'est un hebdomadaire de grande qualité, très connu, de grande diffusion, qui a produit un portrait du président ukrainien en exercice, un portrait, disons, au vitriol, en disant qu'il était ce qu'on savait déjà, ce qu'on avait déjà entendu dire. Donc, un agioteur, un monsieur intéressé, qui avait de l'argent dans des paradis fiscaux, qui avait été ciblé déjà par les Pandora Papers, etc. Tout ça a été mis noir sur blanc. Alors là aussi, pas de surprise dans l'information elle-même, si ce n'est que la fortune de M. Zelensky s'élèverait quand même autour de 800 millions de dollars. Donc c'est un joli salaire de président de la République ukrainienne, hein, mais il l'a pas obtenu au titre de son mandat de président, mais au titre d'agioteur avec ses copains qui font des placements dans des paradis fiscaux et tout. Il en a. Alors il le dit d'ailleurs, c'est assez cocasse parce que il dit lui-même que ses copains sont encore plus riches que lui.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a à la tête de l'Ukraine une bande de voyous, comment appeler ça autrement, de voyous qui sont possesseurs de milliards de dollars et pour lesquels Zelensky, c'est le petit de la bande. C'est celui à qui on dit, bon, toi fais ça, allez, prends-toi 800 millions au passage et puis fais ton boulot. Hein. Mais nous, c'est des milliards de dollars qu'on se met dans les poches, par tous les moyens à notre disposition. Bon, ça a été dit. Alors, ça a été dit, donc là aussi, pas de surprise. Le fait que ce soit un des principaux quotidiens journaux allemands qui le mettent en allemand sur son site, ça veut dire que du côté de l'opinion allemande, on commence par se dire, mais où allons-nous ? Où allons-nous dans cette guerre où nous prenons le parti de M. Zelensky de A à Z, où on lui envoie des armes, on lui envoie de l'argent, et à quelle personne donnons-nous la priorité, à quelle personne confions-nous l'avenir de l'Union européenne ou l'avenir des intérêts allemands dans ce pays. Donc voilà, c'est ça qui est en filigrane derrière. Hein. Est-ce qu'on n'a pas fait fausse route à force de dire l'Ukraine a raison, la Russie a tort ? Et ça revient. Ça revient d'autant plus qu'un certain Gerhard Schröder, dont le nom ne vous est pas étranger, qui fut un temps donc chancelier social-démocrate donc du SPD, du même parti que M. Scholz d'ailleurs, de la République fédérale allemande, était un des principaux dirigeants du groupement qui a mis au point le nouveau gazoduc sous-marin qu'on appelle Nord Stream 2, qui relie, alors il relie le gazoduc dont je parle, le Nord Stream 2, il relie effectivement la Russie du côté de Saint-Pétersbourg, il passe sous la mer Baltique et il arrive dans un port allemand. Puis de là, il repart sur un réseau terrestre qui va bien au-delà de l'Allemagne, en Allemagne bien sûr, mais aux Pays-Bas et même en France. Bon. Ce gazoduc est fini, il est posé au fond de la mer Baltique, il est en place, tout va bien. Bon. Mais l'Allemagne, la fin de l'année dernière, sur pression des États-Unis, a interdit l'ouverture, c'est-à-dire une interdiction administrative, non pas qu'il y ait des problèmes techniques, non pas que ce gazoduc ne soit pas sûr, au contraire, il est très utile pour l'économie allemande, mais pour des raisons politiques. On a mis en avant je ne sais quelle vérification pour faire plaisir à M. Biden, dire « Ah ben on ne peut pas l'ouvrir bon. ». Il suffirait que cet interdit administratif soit levé pour que d'importantes quantités de gaz russe arrivent du jour au lendemain en Allemagne. Et ensuite, donc, dans les autres pays desservis. Bon. Alors ça, M. Schröder est allé déjà deux fois voir Vladimir Poutine. Il est revenu en confirmant que tout ça est tout à fait possible. Et on n'attend plus qu'une évolution du gouvernement allemand dans un sens un peu plus raisonnable de ses intérêts. À défaut de quoi, alors on arrive à la fin du mois d'août, on sait que l'automne et l'hiver seront difficiles dans les maisons allemandes, dans les usines allemandes. Alors dans les maisons allemandes, je ne sais pas si le gouvernement s'en soucie beaucoup, sauf insurrection dans la rue, mais dans les usines allemandes, il y a des usines allemandes, des usines dans la chimie, la grosse chimie allemande, qui est très très puissante sur le marché mondial, des usines qui ne fonctionnent qu'avec le gaz. Et donc, si elles n'ont plus de gaz, elles arrêtent, c'est tout. Donc ça, il y a effectivement, je pense, une espèce de panique à l'intérieur. Alors, le visage, l'allure est celle d'une sérénité maintenue, mais il y a une vraie interrogation sur la suite des événements. Donc tout ça fait partie des craquements. L'autre dernier craquement, et ça vient, je crois, d'une source des États-Unis, c'est un groupe, un lobby qui fait des études, qui a essayé de tracer, comme on dit, de voir la traçabilité de tout l'armement étranger qui est fourni à l'armée ukrainienne depuis le début du conflit. La conclusion qui sort de ce document qui est public, qui n'a pas donné lieu à des commentaires, une histoire de fou, enfin, il n'a pas du tout été critiqué, c'est de dire qu'il arrive en gros 30% de l'armement dans les unités combattantes ukrainiennes. Tout le reste s'évapore, qui sait où. Qui sait où, ben, un peu partout, voilà. Parce que sachons bien que nous sommes partis, il n'y a pas que Zelensky, je vous ai parlé de la corruption, des oligarques, etc. Ce pays est corrompu jusqu'à la moelle, donc vous faites arriver sur le terrain sans contrôle, puisqu'il faut passer la frontière polonaise, puis après vous mettez ça entre les deux premières mains ukrainiennes que vous trouvez. Si c'est un officiel honnête, il va amener ça à l'unité combattante. Si c'est un voyou qui a mis un uniforme ou un faux uniforme et qui va le vendre, lui, à des petits copains qu'il a, je ne sais pas où, dans je ne sais quelle milice, etc., ça peut très bien se faire. Et c'est même sans doute beaucoup plus rentable que de juste faire son boulot de soldat de l'armée ukrainienne. Bon. C'est ça, là. 70% des armements donc, n'arrivent pas aux unités combattantes ukrainiennes. Bon. Donc, et il y a potentiellement là un énorme danger pour l'ensemble de la population planétaire. Où ça va-t-il finir ? On peut se demander, effectivement, où ça va-t-il finir. Bon. Dernier cas, mais je viens de découvrir ça en rentrant dans le studio, juste avant, j'ai reçu une dépêche indiquant que l'armée française avait fourni à l'armée ukrainienne des mines extrêmement sensibles à mettre le long de la ligne de front. Ça veut dire quoi, le long de la ligne de front ? Ça veut dire que d'un côté, côté Est, en gros, pour faire simple, il y a l'armée russe et les armées des deux républiques, et puis de l'autre côté, il y a l'armée ukrainienne qui est enterrée dans ses trous. Si ces mines françaises, qui sont interdites par les conventions internationales sur les mines antipersonnelles, sont utilisées, elles sont extrêmement dangereuses parce que le moindre mouvement de terrain les fait exploser. Et donc ça détruit des blindés facilement, ça détruit évidemment tout véhicule terrestre qui passerait à quelques mètres de là. Sans compter les piétons et les passants ou les paysans avec leur char.
La nature.
Voilà. Bon, donc on en est là de ce niveau d'inquiétude. Ce qui m'amène à dire qu'il faudrait quand même bien que ceux qui ont décidé de se lancer dans cette aventure folle de donner tous les moyens à M. Zelensky, de choisir ce personnage pour conduire un État de 40 millions d'habitants qui a d'énormes possibilités, etc., et économique, devrait réfléchir à la suite des événements. Je pense qu'ils sont en train de le faire. Ces signes-là, Le Monde, je vous dis, Amnesty, Le Quotidien Allemand, Die Welt, etc. Ça vient, mais toute journée qui passe est une journée de perdu en faveur d'un règlement du conflit, hein, et donc potentiellement est dangereuse. Je tenais à le dire. Puisque j'en étais à parler de mines, mais je vais parler d'autres mines. Là, je parlais de mines terrestres, donc mises sur le terrain pour faire sauter des blindés russes. Je vais parler des mines qui avaient été mises dans les ports. Alors ça, on avait déjà reparlé. Donc la réaction du gouvernement ukrainien au conflit, ça a été de miner les ports donc, du sud du pays, Odessa et quelques autres qui donnent directement sur la mer Noire. Et il a bien fallu, à partir du moment où on s'est mis à dire « l'Ukraine ne peut plus exporter son blé », puisqu'elle a elle-même miné ses ports. Alors, c'était sans doute pour faire de la peine aux exportateurs russes qui aussi exportent du blé, mais du coup, l'Ukraine s'était elle-même privée d'une possibilité de recette. Et donc, elle a fini par admettre, ce qui s'est fait dans les accords passés avec la Turquie sous l'égide de l'ONU, qu'elle allait laisser passer un certain nombre de navires chargés de céréales dans les couloirs non minés, sous la surveillance commune de la marine russe, de la marine turque, et avec, in fine, un contrôle de la cargaison dans les ports turcs, principalement le port d'Istanbul, où je suis juste à côté.
C'est ça.
Pourquoi contrôler les cargaisons ? Ben pour, effectivement, dans un pays qui est rongé par la corruption, on vous annonce 50 000 tonnes de blé ou de maïs. Mais imaginez un cargo rempli de 50 000 tonnes de maïs. Il y a plusieurs cales, il y a des faux ponts, il y a des entrepôts, il y a des nervures de la coque, etc. Vous pouvez très bien glisser des tas de choses à l'intérieur du stock de maïs ou du stock de blé. Donc toute opération de ce genre-là nécessite des inspections qui ont lieu, qui sont menées très très sévèrement, à la fois par l'armée turque et par l'armée russe directement en Turquie. Pour éviter qu'effectivement il y ait un trafic ou qu'il y ait une vente de produits qui n'ont rien à voir avec les céréales. Ça, c'est la première donnée. Ça commence à fonctionner. Je crois qu'on est à une dizaine de bateaux qui sont partis. Bon. Là où ça devient aussi encore plus intéressant, cette histoire de blé, c'est que c'est précisément pas du blé qui a été exporté jusqu'à présent. On me dit, ah bon ? Eh bien non, parce que ce qui a été exporté, c'est ce qui était peut-être en priorité sur les carnets de commandes des exportateurs. Il s'agit donc de maïs et de tourteaux de soja. Donc maïs et tourteaux de soja, ça veut dire, mettez l'équivalence, nourriture pour le bétail. Donc quand vous dites, et quand vous êtes président par exemple du Sénégal, et que vous allez pleurer dans le bureau de M. Poutine en disant « les Sénégalais vont mourir de faim », vous vous moquez du monde. C'est-à-dire que, renseignez-vous, avec du tourteau de soja, on ne nourrit pas un Sénégalais normalement constitué. C'est pas possible. Hein, c'est pas fait pour
et
ça.
Ces bateaux, ils sont fournis à l'Europe, j'ai entendu.
Oui, oui. Alors, voilà. Ouais. Alors, effectivement. Et donc, on s'aperçoit que ces bateaux qui sont partis, il n'y en a aucun qui est allé dans ces fameux pays d'Afrique dont vous avez fait parler. Et je parle de Macky Sall parce que, manifestement, et vous l'entendrez à la, dans l'interview que je vais vous passer, M. Macky Sall avait été mandaté par M. Macron pour aller pleurer dans les bras de Vladimir Poutine en disant « Vous nous faites mourir de faim, vilain monsieur bon. !» Et donc, effectivement, avec des tourteaux de soja et du maïs, on ne fait pas mourir de faim sénégalais. Hein, hein, on peut faire mourir un troupeau de bétail ici ou là, c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas la même chose. Bon. Où sont alors les destinations, on va les entendre dans la petite interview que je vais vous passer, donc je ne reviens pas dessus. Il n'y a aucune destination africaine dans les 12 premiers bateaux qui ont été expédiés. Point. Et il y a même des pays développés, très développés et très riches.
Oui.
Bon, alors, donc tout ça ne tenait pas debout. Deuxième aspect, qui est le vendeur ? Alors c'est là que ça devient intéressant.
Ah.
Qui est le vendeur ? Alors on sait ça depuis des temps très très éloignés que la terre à blé d'Ukraine, comme d'ailleurs la même terre à blé de l'autre côté de la frontière russe, est une des meilleures, si ce n'est la meilleure terre à blé du monde, avec de magnifiques rendements, des champs très très vastes, etc. Bon. On sait que l'agriculture ukrainienne était et occupe encore une bonne partie de la population active, beaucoup plus que dans notre pays. Il y a une population active parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner sur la terre ukrainienne et dans la campagne ukrainienne. Ça on le sait. Ce qui s'est passé, c'est que justement, la possibilité de gagner beaucoup d'argent dans cette terre bénie, j'allais dire bénie, si elle est, hein, de ces terres noires ukrainiennes, a suscité des appétits à la fin de la, au moment de l'indépendance, à la fin de l'URSS. Et il y avait eu des débuts d'achat par des étrangers qui avaient très bien compris l'intérêt des privatisations et qui commençaient à acheter. Mais ça s'est tellement su et ça a tellement fait réagir, j'allais dire, la campagne profonde ukrainienne que le gouvernement, en 2001, donc ça avait duré 10 ans, les premières tentatives de privatisation de la terre ukrainienne très riche, en 2001, il y a eu un moratoire. C'est-à-dire que le gouvernement a dit « on arrête de vendre ». Et comme ils ne savaient pas comment s'en sortir, ils ont trouvé un système que je vous détaille, enfin que je vous explique, non, plutôt en gros. Ils ont dit aux kolkhoziens, puisqu'on était dans l'économie des kolkhoz, donc des fermes soviétiques, hein, ils ont dit aux kolkhoziens « louez à l'hectare, c'était quelque chose comme 152 euros à l'hectare ou 150 dollars à l'hectare l'année, vos terres ». À quelqu'un qui a de l'argent, et c'est vous officiellement qui êtes le propriétaire. En fait, vous n'êtes plus que le locataire d'un terrain, mais au moins, l'apparence est propre, c'est-à-dire qu'on peut dire « Ah mais non, la terre appartient à M. XY kolkhozien, ukrainien de souche, même si derrière il a un actionnaire qui lui n'est pas du tout ni kolkhozien, surtout pas, ni ukrainien, encore moins. Voilà. » Bon, c'est comme ça que ça a fonctionné. Et puis, ça a fonctionné quasiment 20 ans, et il a fallu attendre l'arrivée de Zelensky au pouvoir pour que cette discipline-là imposée par un espèce de rapport de force politique, c'est-à-dire que c'est la masse rurale et paysanne ukrainienne qui voulait pas qu'on lui vole ses terres et ses recettes. Bon. Donc Zelensky a craqué, et donc depuis 2019, la terre ukrainienne est en vente. Écoutez bien, je vais vous donner les chiffres. Il y a sur 62 millions d'hectares, donc de terres cultivables, non, la totalité même du territoire ukrainien, il y a 17 millions d'hectares qui ont été achetés par des compagnies des États-Unis. 28% du sol ukrainien appartient aujourd'hui à des compagnies des États-Unis.
C'est ça.
Ce qui veut dire que quand on vous dit le bateau qui est allé nourrir ces pauvres Sénégalais qui mouraient de faim, c'est un bateau qui remplit les poches de sociétés que je vous nomme, Monsanto, vous connaissez tous, hein, c'est la Roundup. Cargill, vous connaissez moins, mais c'est bien pire, parce que Cargill, c'est le premier négociant mondial en grains. depuis la Première Guerre mondiale, qui fait son business à la Bourse internationale de Chicago. Et le troisième, c'est Dupont de Nemours, le chimiste. Voilà. Donc 28% de la superficie agricole de l'Ukraine appartient aujourd'hui à des compagnies, à des grands groupes capitalistes états-uniens. C'est ça la réalité. Ce qui veut dire que le maïs, les tourteaux de soja qui sont partis, on va l'entendre quelque part, ils sont allés, la recette est allée dans les poches de ces sociétés-là. Je ne sais même pas si Zelensky a le courage ou si on lui laisse prendre une taxe dessus. Ces messieurs s'empiffrent sur la richesse ukrainienne. Voilà ce qu'il faut vous dire. Et alors j'ajoute, parce que c'est le sommet, c'est que ces compagnies-là, quand elles voient arriver une belle affaire, alors ce sont des compagnies, Monsanto, imaginez Cargill, des compagnies extrêmement riches, mais si elles découvrent tout d'un coup, à l'orée d'une situation politique, qu'il y a un larcin à faire, c'est-à-dire à se jeter sur un marché, et qu'il leur manque 20-30 millions de dollars en caisse pour faire ça tout de suite, parce qu'autrement, si c'est pas eux, c'est le voisin, eh bien ils vont voir les fameux fonds d'investissement, les Blackstone, les Vanguard, etc., pour dire vite, passe-moi 20 millions de milliards de dollars parce qu'il y a une affaire en or à faire, on va gagner un maximum. Voilà entre les mains de qui est la terre ukrainienne et la patrie ukrainienne, des Ukrainiens, des pauvres, à la limite des pauvres qui se battent en croyant qu'ils défendent leur pays. Ils défendent le grand capital des États-Unis et les marchands d'armes, au passage. Bon. Alors, pour clôturer ce petit chapitre, mais qui méritait d'être développé, on va écouter une interview que j'ai enregistrée ce matin. Alors, il s'agit d'une militante ivoirienne qui s'appelle Nathalie Yambe, qui a été aux élections présidentielles de 2020 la porte-parole d'un candidat à la présidence de la République, j'allais dire un petit candidat parce qu'il n'a pas eu fait un résultat extraordinaire, mais donc Nathalie Yambe s'exprimait au sujet justement des céréales et de la nourriture pour les Africains. On l'écoute.
Je m'appelle Nathalie Yambe. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Frantz Fanon, auteur de cette belle citation que j'ai sur mon t-shirt qui dit que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Ceux qui sont avec moi, qui regardent cette courte vidéo, qui l'aiment et qui la partagent, sont ceux qui ont décidé d'accomplir leur mission, celle de l'émancipation de l'Afrique. Depuis la levée du blocus il y a quelques jours, il y a 8 navires chargés de céréales qui ont quitté les ports d'Odessa et de Tchornomorsk en Ukraine. Devinez leur destination. Je vous le donne en 1000. Le Liban, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Corée du Sud, la Turquie. Or, le narratif qui avait été utilisé à l'époque était qu'il fallait lever le blocus russe sur les ports ukrainiens, sinon l'Afrique mourrait de faim. Macron avait même demandé à ses laquais Macky Sall et Moussa Faki Mahamat de l'Union africaine d'aller faire la danse du ventre devant Vladimir Poutine, ce qu'ils ont fait la queue frétillante. Le président de la Fédération de Russie ne s'y était naturellement pas trompé et avait même donné un cours gratuit de géopolitique très humiliant à nos deux lascars. Vous savez que j'ai toujours dénoncé avec véhémence ce narratif mensonger que les Occidentaux répètent à chaque fois qu'ils sont dans drap. On met en avant l'Afrique comme une mendiante alors que l'on cherche à se remplir ses propres poches. Quand ils ont eu besoin de cash au mois de juin 2021, ils ont prétendu que les droits de tirage spéciaux du FMI, les DTS, étaient pour nous, alors qu'en réalité, sur les 650 milliards de dollars, seuls 5% ont été attribués à l'Afrique, soit 34 milliards de dollars. Le reste, 616 milliards de dollars, est allé joliment dans les poches des si généreux occidentaux. Quand ils ont eu envie de faire gagner de l'argent à Bill Gates et à ses copains du Big Pharma, ils ont mis en place une initiative pour nous abreuver de petites picouses, souvent périmées, et surtout que personne n'avait demandé en Afrique, mais qui justifiait les commandes mirobolantes passées aux laboratoires et aux fabricants. Quand ils se retrouvent en manque de céréales à cause des imbéciles sanctions qu'ils ont prises à l'encontre de la Russie, il plaide la levée du blocus en disant que c'est pour sauver ces pauvres Africains de la famine. Alors que la dernière fois qu'on a vérifié, non seulement on s'en fout de leur blé, puisqu'on a nos manioc, mil, sorgho, fonio, igname, etc., mais également on a beau chercher sur la carte de l'Afrique, on n'y voit pas de pays dénommés Royaume-Uni, Liban, Turquie, Irlande, Corée du Sud. Africains, chaque fois que vous verrez des Occidentaux, que ce soit un État, des hommes politiques et même une organisation supranationale, dire qu'ils font quelque chose pour vous aider, sachez qu'ils mentent comme des arracheurs de dents. Ils ne font jamais rien pour vous. Ils ne feront jamais rien pour l'Afrique. Ils mangent tout le repas, ils se goinfrent, ils s'empiffrent en nous balançant quelques miettes. Arrêtons de fonctionner avec eux. Nos solutions sont dans nos propres rangs, en Afrique et ailleurs dans le monde, et il est vaste. Vous verrez, on vit mieux chez nous sans eux. À bientôt.
Voilà, c'était magnifique, et puis c'est une espèce d'introduction de qualité au débat qui se tiendra donc le samedi 3 septembre pour la fête de Radio Galère qui s'appelle Parole de Galère, parce qu'on est tout à fait dans le thème de l'Afrique qui s'émancipe. Là, vous entendez une Ivoirienne qui dit très clairement ce qu'elle a sur le cœur, et elle n'est pas seule à le penser. Allez. À telle enseigne, alors, je rebondis sur la question de Macky Sall, envoyé spécial de M. Macron dans le bureau de Vladimir Poutine. Il a dû être tellement humilié, ce pauvre garçon, enfin, je ne sais pas on peut le plaindre, qu'il est allé, je crois c'est hier, il est allé rencontrer son homologue au Mali, donc le général ou le colonel Koïta, pour dire qu'il faudrait quand même retrouver de meilleures relations. C'est-à-dire qu'il a dû se dire, il a dû se rendre compte à cette occasion et de cette leçon cruelle que lui a infligée le président russe, il a dû se dire finalement, il vaudrait mieux essayer de s'entendre avec les voisins plutôt que de servir de petit télégraphiste à M. Emmanuel Macron, que presque plus personne ne prend au sérieux en Afrique francophone aujourd'hui, à telle enseigne que lors de sa dernière tournée, puisque comme il a vu que le ministre des Affaires étrangères russe faisait une tournée en Afrique, M. Macron a couru derrière, vite. Alors il n'est pas allé aux mêmes endroits, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais il est allé au Bénin en pensant trouver des amis. Et à un moment donné, alors ça c'est uniquement dans le gestuel, mais c'est très très intéressant, M. Macron, quand il s'est approché donc du président béninois ou du ministre, je ne sais pas si c'était le ministre des Affaires étrangères ou le président, peu importe, il a, comme il fait avec tous ses interlocuteurs, il l'a caressé, il l'a pris dans ses bras, et l'autre l'a poussé comme si, on aurait dit qu'elle est une jeune fille qui se faisait agresser par un vilain monsieur. Il n'a pas supporté ce contact physique qu'il n'avait évidemment pas demandé, et dont on sait maintenant, parce que tout le monde l'a observé depuis maintenant 5 ans, monsieur Macron essaye les papouilles. Voilà, bon, appelons ça comme ça, en langage de tous les jours. Bon, eh bien, il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas, surtout quand c'est pour faire passer des messages politiques frelatés.
Non, bien, c'est vrai.
Voilà pour l'Afrique. On en reparlera sûrement. Je veux aborder maintenant, alors attends, où j'en étais de toutes mes choses. Si, on va quand même consacrer un petit moment à la célébration qui a eu lieu hier, à savoir les 75 ans de ce qu'on appelle la partition de l'Inde, qui est en même temps l'indépendance de l'Inde. Alors, quelques mots quand même. D'une part, pour situer l'événement, il se situe donc dans la période qui est ouverte par la fin de la guerre de 45, et donc dans l'émancipation de la quasi-totalité du tiers-monde, ou presque. Il ne reste guère plus que les Comores, la Guadeloupe et la Martinique, mais enfin, tout le reste est quasiment émancipé. Alors ça s'est fait à partir de 45-47, ça a duré, par exemple, dans le cas de l'Indochine, jusqu'en 74, enfin, il y a eu des rythmes différents. Pour l'Afrique, ça a été une partie d'indépendance arrachée par les armes, l'Algérie, une partie d'indépendance octroyée, mais l'Inde, c'est le gros coup, c'est la grosse colonie britannique qui quitte la mère patrie, bon, après un siècle de colonisation. Mais ce sur quoi il faut s'arrêter, c'est sur le fait qu'on fait souvent le parallèle, et le parallèle n'apporte rien de convaincant. C'est-à-dire que l'indépendance de l'Inde, ça n'a rien à voir avec l'indépendance de la Chine. La Chine a arraché son indépendance par les armes, dans des conditions extrêmement difficiles. Je rappelle, une douzaine de millions de morts, une matinée de guerre civile, matinée d'un camp donc nationaliste soutenu par l'Occident, une guerre prolongée donc de 45 à 49 pour que finalement le Parti communiste chinois arrive seul au pouvoir. En Inde, il n'y a rien eu de semblable. En Inde, il n'y a rien eu de semblable, en ce sens que je vais être très simple, c'est-à-dire que c'est les classes dirigeantes indiennes qui n'avaient pas été éliminées par le colonisateur britannique, qui n'en avait pas les moyens, le parti, le petit Le pays est trop grand pour maîtriser tout. Donc, il y avait une espèce d'accord de gestion, disons, entre la bourgeoisie et les aristocrates indiens, les maharajas, etc., pour gérer le pays sous la tutelle britannique. C'était comme ça que ça se passait. Et donc, à un moment donné, le colonisateur britannique s'est rendu compte que ce système allait craquer. Il a commencé à avoir des mouvements, le Gandhi, la non-violence, etc., puis des mouvements armés. Et donc, à ce moment-là, la Grande-Bretagne a dit « il faut trouver un autre mode d'arrangement ». Ouais. Rien à voir donc avec l'évolution chinoise. Ce mode d'arrangement, il se met au point dans une discussion avec le gouverneur qui est nommé, donc qui est un cousin de la reine Elisabeth, le gouverneur Lord Mountbatten, hein, qui donne le pouvoir, on est en février 47, à un certain Nehru. Nehru, dont vous avez tous entendu le nom. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une guerre de libération nationale menée par la bourgeoisie et l'aristocratie indienne, il y a un transfert de pouvoir, une délégation de la couronne britannique à une personne qui a émergé dans les mouvements d'indépendance. Il y a un vrai mouvement d'indépendance, mais il n'y a pas de lutte armée pour l'indépendance. Hein, et c'est ce Nehru qui va se retrouver à la tête de l'État. Alors Nehru est le disciple, le premier disciple de Gandhi, mais Gandhi sera plus ou moins partagé sur la suite des événements. Toujours est-il que c'est ça qu'il faut savoir, et il faut se rappeler qu'en février 47, donc il y a un accord entre, disons, les nationalistes indiens et le gouverneur britannique Mountbatten pour accéder à l'indépendance au 15 août 1947. Et ça va se faire. Et ça va se faire, mais ça va se faire avec un prix politique extraordinairement élevé, qui ne sera pas une guerre civile ou une guerre de libération nationale contre le colonisateur britannique, mais ça sera une guerre de division à l'intérieur du pays qui était sous une tutelle globale. La colonie britannique, c'était la totalité de ce qui est aujourd'hui constitué par trois pays, le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh. Ouais. Le résultat de cette indépendance négociée, ce qui ne peut pas l'appeler autrement, hein. J'enlève rien au mouvement non violent, ni etc. Mais il s'agit d'une indépendance négociée avec les classes supérieures de la société indienne. Ça a été la reproduction, et en l'incrustant dans les limites d'État, des divisions ethniques et culturelles et religieuses qui existaient sur le terrain. Dans l'État où elles étaient ce jour-là. Parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'à des temps pas si reculés, du temps du Grand Mogol, la majorité du territoire de l'Inde était sous domination musulmane. Donc,
Nehru, ça n'est
rien. Oui, voilà. Et donc, en 47, bon, le partage était comme ça. Il y avait plus de musulmans à l'est. À l'ouest, on en a fait le Pakistan. Il y avait une majorité d'hindouistes, de brahmanistes, etc., de bouddhistes au centre. On en a fait la République indienne. Et puis, il y avait encore une majorité de musulmans dans la troisième partie qui s'appelait pas encore le Bangladesh, qui s'appelait le Pakistan oriental.
Hein. C'est ça.
Bon, ça s'est découpé comme ça. Ce découpage est resté, parce qu'il est figé sur des partages religieux, et donc il est sujet à des inflammations permanentes qui ont donné lieu, d'ailleurs, qui ont débouché le résultat militaire et stratégique mondial, il est très clair, c'est-à-dire que ça a permis, et à l'Inde et au Pakistan, d'avoir tous les deux la bombe atomique sans respecter les traités.
Exactement.
L'un ayant peur de l'autre, chacun y est arrivé de son côté. Mmh. Bon, c'est ça la donnée. Bon, c'était tellement... J'arrive fin 47, donc on a deux États, le Pakistan avec deux morceaux, un morceau occidental et un morceau oriental, et la République indienne au milieu. Bon. Entre le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, il y a 1600 kilomètres. Il n'y a aucun lien, ni ferroviaire, ni routier, ni rien du tout. Bon. Cette coupure va produire un effet qui était à peu près certain dès le début, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le Pakistan oriental va dire « moi, je ne veux pas subir la tutelle du gouvernement de Karachi, et donc je veux mon indépendance ». Alors ça va déboucher sur des mouvements de libération nationale, mais pas très très forts, c'est un pays petit, et c'est un pays encore beaucoup plus pauvre que le Pakistan occidental, et donc c'est l'armée indienne qui va faire pencher la balance dans le sens de l'indépendance du Pakistan oriental, qui va devenir, on est en 1971, le Bangladesh, ce qu'il est toujours. Le Bangladesh, je le rappelle aujourd'hui, c'est 170 millions d'habitants. C'est pas tout à fait
très
rien
pauvre
du tout, sur un territoire qui est la taille d'un tiers du territoire de la République française. C'est-à-dire, c'est le pays le plus dense du monde. hein, et dont une partie du territoire est inondable en permanence par les eaux du Gange et du Brahmapoutre rassemblées dans un immense delta. Bon. Ah. Et il y a même une partie du territoire qui est en dessous du niveau de la mer. Bon. Donc, pays pas facile, pays dans des circonstances géographiques données pas faciles, qui en même temps est en train de décoller économiquement. C'est-à-dire les taux de progression ces dernières années de l'économie de Bangladesh, c'est 7, 8, 9, 10% par an. Donc on a l'impression d'une véritable croissance avec en même temps des dangers. Et puis on sait, on a vu l'extrême violence de l'exploitation capitaliste dans ces pays-là, hein, dans les usines de textile, etc. Bon, mais tout dit, le processus de développement est en cours. Je voulais juste rappeler ça pour dire que l'indépendance acquise à l'indienne, c'est-à-dire l'indépendance octroyée et qui est remise à une classe dirigeante qui ne change pas, c'est-à-dire que la bourgeoisie musulmane qui était donc au Pakistan, elle est restée à la tête du pays, la bourgeoisie hindouiste, brahmaniste, etc., est restée à la tête du pays côté indien, et même chose du côté du Bangladesh. Il y a aussi une autre bourgeoisie qui est d'ailleurs pas très en accord avec la bourgeoisie musulmane du Pakistan occidental qui a installé son pouvoir et qui a eu le plus de peine parce qu'effectivement le pays était au départ le plus pauvre largement des trois. Tout ça, ça méritait d'être rappelé parce que je fais toujours le parallèle ou par l'opposition avec la solution chinoise où on a là effectivement un pays qui se libère dans sa totalité et qui ne se divise pas. Surtout pas sur des critères religieux qui sont, vous le savez, les plus meurtriers. Les critères religieux, c'est des critères qui ne font pas appel à la raison.
C'est qu'on a vu au Moyen-Orient.
Voilà, hein, t'as tort, t'as raison, mon Dieu, c'est le bon. Enfin, voilà, donc on sait que. Alors, donc, moi, j'accuse très clairement la majesté britannique d'avoir laissé un désordre volontaire dans ce territoire. En disant, je m'en vais, mais alors je vous laisse le pays dans un état, vous verrez bien ce que vous allez en faire. Le résultat, je dis, c'est deux puissances nucléaires qui sont en train de décoller toutes les deux, ça c'est l'évidence, hein, avec beaucoup de retard pour l'Inde par rapport à la Chine, ça ne fait pas de doute non plus, d'énormes retards en matière d'éducation, en matière de conditions féminines et tout. Bon, beaucoup, il y a énormément à faire en Inde. Bon, l'Inde est indépendante, elle est en train, heureusement, de prendre un chemin qui est de prendre son indépendance réelle par rapport au camp occidental, parce qu'elle en a les moyens matériels, financier et industriel aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin qu'elle a à parcourir.
Et le problème au nord du Pakistan.
Voilà, alors il y a le problème du Cachemire. Oui, voilà, le problème du Cachemire. Alors voilà. Alors cette division sur la base religieuse fait qu'il y a une partie, donc, qui est sur le territoire pakistanais tel qu'il a été découpé en 1947, qui est dirigée, parce qu'il s'agit d'un assemblage de provinces et tout, par un maharaja hindouiste. Et donc, les hindouistes disent, mais notre chef, il est hindouiste, donc pourquoi on ne reste pas là? Et donc, depuis 1947, le problème du Cachemire est pendant. Alors, on se bat de temps en temps.
Et l'Inde.
On se bat de temps en temps et on n'arrive à rien. Alors, il y avait un début de détente, c'est-à-dire c'était moins tendu quand M. Imran Khan était Premier ministre. Et puis, le fait qu'il ait été mis à la porte sur intervention des services secrets des États-Unis, on est retombé dans ces ornières-là.
Il va revenir.
Oui, je pense qu'il reviendra. Ça mériterait qu'il le fasse, en tout cas.
Ouais.
Voilà ce que j'avais à dire. Là, ça mérite d'être évoqué parce qu'on nous présente une situation qui n'est pas si simple. Et on fait, il y a un courant, c'est un classique de la géopolitique vue de France, c'est-à-dire quand vous parlez des avancées de la Chine sur tel ou tel domaine, tout de suite, les gens qui n'aiment pas la Chine vont parler de l'Inde pour dire « Regardez, mais l'Inde, elle est là aussi ». Alors effectivement, à part l'égalité numérique, on n'est pas tout à fait dans la situation d'une égalité. C'est loin du compte.
Ouais.
Et puis je vais parler, alors je ne vais pas parler de tout, mais je vais parler d'un sommet qui a eu lieu, sur lequel on va s'arrêter, parce qu'il va intéresser Habib en particulier. Monsieur Erdogan et Monsieur Poutine ont passé 4 heures en tête-à-tête à Sotchi à la fin, pas de la semaine écoulée, celle d'avant. Alors c'est très étonnant parce que je crois la semaine d'avant ils s'étaient rencontrés pour un sommet avec le président iranien, tous les trois. Donc ils avaient encore beaucoup de choses ils avaient encore beaucoup de choses à se dire à tel endroit, à telle enseigne, qu'ils ont pris rendez-vous pour passer 4 heures quasiment en tête à tête tous les deux et sans qu'il y ait de communiqué officiel. Ils sont pas montés à la tribune, au pupitre en disant j'ai dit ceci, j'ai dit cela. Non, ça veut dire qu'ils ont parlé sérieusement. quand on a une espèce de mise en scène, chacun monte à un pupitre, on a dit ci, on a dit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas... Ça n'a pas beaucoup gratté aux entournures. Hein, c'est ça que ça veut dire. Là, il fallait aller au fond d'un certain nombre de sujets. Alors, il y a quand même des avancées qui ont été annoncées après. La première avancée, ça a l'air de rien, c'est l'abandon du dollar pour un certain nombre d'achats de produits russes par la Turquie. À commencer par le gaz, bien entendu, et le pétrole. Ça veut dire que, sans y être obligé, la Turquie a dit « Ben oui, je vais vous payer en rouble. » Hein. Voilà. La Russie ne demandait rien d'autre. Un autre petit signe, il existe en Russie une carte de paiement, l'équivalent de nos cartes Visa ou cartes Mastercard, qui s'appelle le système MIR, la carte MIR. Bon. La plupart des citoyens russes ont une carte de crédit MIR avec laquelle ils peuvent tirer l'argent au distributeur. Bon. Eh bien, la Turquie a admis que ces cartes MIR allaient pouvoir être utilisées sur le territoire de la République turque. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, du fait des sanctions et du mauvais accueil des Russes à l'ouest de l'Europe, et en particulier en Grèce, etc., les touristes turcs vont évidemment en Turquie. Les touristes russes vont évidemment en Turquie, parce qu'ils vont se baigner dans la Méditerranée comme tout le monde. Hein. Bon. Et donc, là, ils pourront venir payer leur hôtel, leur restaurant avec la carte russe. Ils n'auront plus besoin de dire « j'ai une Mastercard » qu'ils n'ont pas, d'ailleurs. Et donc, ça, c'est des petites choses. Ça, c'est des aspects de vie quotidienne, disons. Hein. Et puis, il y a les aspects politiques. On a beaucoup parlé des Kurdes et de la Syrie. Pour dire simplement qu'il y en avait assez de ces Kurdes installés en Syrie qui n'y restent que parce qu'ils ont des troupes américaines qui les encadrent et qui les payent, bien entendu, et qu'il fallait donc se débarrasser de ces payeurs pour que ces troupes kurdes se rallient, qui sont des troupes menées par des Syriens, il y a des Syriens d'origine, et puis quelques Kurdes qui sont venus de Turquie, mais avaient toute leur place, et Bachar n'était pas là, mais avaient toute leur place sur le territoire de la Syrie, à condition qu'ils cessent de tirer sur l'armée syrienne, et qu'à condition qu'ils cessent d'obéir à des ordres d'officiers des États-Unis. Bon, c'est aussi simple que ça. Il y a des solutions possibles dès l'instant où le territoire syrien est vaste, la Syrie a perdu des habitants, il y a de la place, donc un rapport intelligent entre ces communautés kurdes qui vivent dans le nord-nord-est de la République arabe syrienne et le gouvernement syrien est une solution raisonnable. Et en même temps, ces gens-là devraient s'engager à ne pas aller porter la guerre sur le territoire de M. Erdogan, puisqu'ils auraient un territoire tranquille qu'ils exploiteraient librement dans le cadre de relations politiques à définir au sein de la République arabe syrienne. C'est tout ça qui est en préparation. Alors ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup.
C'est important.
C'est beaucoup, puisque les rapports entre... Il faut savoir que depuis l'arrivée de Bachar el-Assad au pouvoir, les rapports entre la Turquie et son voisin syrien étaient bons.
Très bon.
C'est des rapports de voisinage. Hein. Il faut savoir qu'en plus, il y a la province la plus à l'est de la Turquie, d'une province où on parle arabe, qui est peuplée de beaucoup de Syriens au passage. Bon. Donc, les relations étaient bonnes. Il a fallu l'invention par M. Obama et l'Occident de la guerre civile en Syrie, hein, suscité donc par les djihadistes financés, etc., pour que les relations se tendent au point que, effectivement, aujourd'hui encore, une partie donc, du territoire syrien est occupée par l'armée turque, la région d'Idlib, et qu'ailleurs, l'armée turque va et vient sous prétexte de tuer des Kurdes qui ne lui conviennent pas. Hein. Bon, tout ça a été débattu dans la réunion de Sochi entre les deux personnages, et ça donne l'idée qu'on avance vers une solution politique de ce conflit-là. La condition d'ailleurs essentielle étant de dire ce qui a été reconnu par les deux pays, les États-Unis n'ont rien à faire sur le sol de la République arabe syrienne, ils ne sont pas chez eux, personne ne les a invités, l'ONU ne les a pas envoyés, ils sont là, ce sont des clandestins, ce sont à la limite des terroristes.
Occupants.
Oui, c'est même des terroristes internationaux qui sont dans un territoire sans avoir été invités par les autorités de ce territoire.
Bon. D'ailleurs, le ministre turc a demandé, je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères, a demandé qu'il y aurait des dialogues entre Syriens et l'opposition qui se trouve à Idlib.
Tout à fait. Voilà, donc ce qui méritait. Donc là, c'est porteur d'une évolution tout à fait positive et je tenais à le souligner.
C'est très bien.
Je reviens, j'avais une petite note, mais Comment on fait passer la terre des kolkhoziens ukrainiens, soi-disant transformés en propriétaires, à la propriété des États-Unis? C'est tout simple. Un beau matin, le FMI est arrivé, c'était au début de 2021, et a dit à l'Ukraine, vous avez des besoins d'argent? Alors l'Ukraine a dit, oui, je tire la langue, ça va pas. On a dit, écoutez, privatisez vos terres à blé, et vous aurez l'argent. Ce qui fut fait. Et voilà. Et donc le FMI a donné l'ordre et Monsanto et Cargill sont venus avec leur carnet de commandes. Vous voyez, comme toutes les choses sont bien organisées dans le monde occidental. Et voyez comme ce monde occidental, on le voit tel qu'il est, c'est-à-dire, il n'a pas les mains très très propres, il aime beaucoup l'argent, il n'aime probablement que ça. Et ça, ça va déboucher sur une crise qui est en train de s'amorcer. Je dis, non, je n'ai pas une minute pour dire un mot sur la perquisition dans la grande villa de M. Trump en Floride. Il s'agit d'une drôle d'affaire, tellement drôle, mais on y reviendra la semaine prochaine, qu'il faut savoir que M. Trump n'était pas sur place, il était à New York. Il faut savoir que cette énorme villa de 120 pièces, enfin, on l'a vu déjà sur la télévision, est dotée d'un système de surveillance extrêmement pointu, et que apparemment Donald Trump a observé les agents du FBI rentrer dans les pièces, fouiller les tiroirs, il sait exactement ce qu'ils ont fait, ça a été enregistré. Alors on se demande à quel degré de comédie on en est arrivé, ou à quel degré de déliquescence en est arrivé l'administration Biden pour se livrer à ce genre de comédie. C'est peut-être encore un coup électoral, comme le coup de Mme Pelosi, mais à force d'avoir des coups électoraux de mauvaise qualité, les élections vont très très mal se passer. Bon. Et on va finir par deux petites musiques. Alors, je ne sais pas par laquelle on commence, non. J'hésite. Alors, on va commencer par la deuxième de Johann Betz. Ah. Alors, j'explique. Il passe en ce moment dans les salles un film qui est une biographie du compositeur de musique Ennio Morricone, que tout le monde connaît, qui est mort à 91 ans, il y a 2 ans, qui a composé plus de 500 musiques de films. On connaît surtout les musiques pour les westerns, une poignée de dollars ou une dollar de plus, etc. Mais il a aussi composé la musique de cette chanson que sonne Johann Betz, qui est la chanson en l'honneur, en hommage à Sacco et Vanzetti, les deux anarchistes liquidés par la justice américaine parce qu'ils avaient soi-disant commis des crimes qu'ils n'avaient pas commis et qui ont été passés à la chaise électrique. La superbe chanson donc de Johann Betz, musique de Ennio Morricone. Et on finira là-dessus.